I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alternative Football.
Salut Monsieur Cissé. Dis-moi, je viens de te voir à la télé là. J'ai vu que tu commençais l'aventure avec Amazon, donc c'est cool. Et puis surtout, faire partie d'une aventure comme ça qui redéfinit un petit peu la manière dont on fait la télé, ça va être forcément enrichissant. C'est quoi ton retour jusque-là?
Ouais Matt, écoute, je pensais te l'avoir dit, donc mille excuses. Effectivement, je suis sur Prime Video et c'est une première pour moi parce que je vais commenter les matchs. D'ailleurs, j'aurais aimé que tu me dises un petit peu, toi, en tant que grand fanat de football, ce que t'attends d'un consultant lorsqu'il est au commentaire.
Non, mais c'est super. En tout cas, tu vas découvrir un nouveau maillon de la chaîne, hein, sans mauvais jeu de mots. Et le commentaire, c'est hyper important parce que t'es là pour mettre en avant les droits qui sont payés très cher par les chaînes. Donc, c'est une grosse responsabilité. Et je suis persuadé que ça va te plaire. On aura l'occasion d'en parler dans les grandes largeurs. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser que j'aimerais bien avoir Laurent Salvaudon sur le podcast pour qu'il nous explique justement comment les différents maillons s'imbriquent et où est-ce que, selon lui, il doit intervenir en tant que patron de rédaction pour que la couverture du foot soit idéale sur une chaîne. Je pense que ce serait super intéressant de l'avoir sur Alternative Football.
Validé. Laurent Salvaudon, je le connais depuis Bein et Canal. Et maintenant qu'il est depuis pas mal d'années déjà rédac chef de RMC Sport, je pense que j'aurais même des conseils à lui demander.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative Football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Alternative Football avec Monsieur Cissé, mon compère qui est bien là.
Ouais, toujours là.
La raison pour laquelle j'ai le sourire, c'est pas nécessairement le match d'hier soir. C'est parce qu'on a la chance et le privilège de recevoir Monsieur Laurent Salvaudon. Salut Laurent.
Salut Mathieu, salut Edouard.
Salut Lolo.
Comment vas-tu?
Pas mal, après un beau match de football, ouais.
Ouais, ça s'est bien passé? Tu diffusais hier soir, t'avais du monde sur place, donc...
Ouais, un PSG City, c'est la première fois qu'on délocalisait depuis plus d'un an et demi avec des gens dans un stade.
Ouais.
Pendant un an et demi, on était tout seul dans le stade à faire un plateau télé, donc là, ça faisait du bien.
Oh, bah super. On va avoir l'occasion d'en parler longuement, la manière dont tu travailles. Parce que figure-toi que ce qui nous rassemble ce matin, c'est un vaste sujet que je vais vous énoncer. La chaîne TV de foot parfaite, ce serait quoi?
C'est celle qui justifie l'investissement de quelqu'un.
Ok.
Tu n'as pas précisé si c'était une chaîne gratuite ou payante, donc on va partir du principe que si elle a des bons contenus, elle est payante.
Et ah ouais? Je te coupe, pourquoi ça?
Aujourd'hui, les droits sont payants encore. Donc, pour rentabiliser un investissement, il faut des annonceurs très forts s'il n'y a pas d'abonnement.
Okay.
Est-ce que les rentrées via les annonceurs suffisent à rentabiliser des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros? Je crois que la question elle est vite répondue. Comme
le dit le nouvel adage. Je rebondis tout de suite sur ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, du foot premium à la télé gratuite, on n'en trouve pas. En revanche, on voit un retour du foot gratuit. Je pense à l'équipe qui a chopé la Ligue de cette année. Est-ce que pour toi, ça, c'est, ça dénote d'un changement dans la manière dont les droits sont adressés et qui peut aller chercher des droits, parce que la Ligue 2 était un droit payant avec une certaine valeur sur des chaînes payantes avant ça, ou c'est simplement un phénomène de marché qui a été créé par ce qui s'est passé en France l'année dernière et que ça a généré de nouvelles opportunités pour une chaîne comme l'Équipe?
C'est compliqué. On va dire que, fut un temps, les chaînes payantes raflaient tout ce qu'elles pouvaient. Mmh. Elles sont plus nombreuses. Le marché est plus resserré. Aujourd'hui, on a une tendance à l'investissement sur l'ultra premium.
Okay.
Avant, on avait les droits premium. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des droits ultra premium. Dont font partie la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Première Ligue. Et des droits dans d'autres sports. Que sont le top 14, voilà, la Formule 1, etc. Donc finalement, il est logique que certains droits puissent filer sur certaines chaînes gratuites si certaines chaînes payantes ne sont plus prêtes à investir pour les prendre.
Ouais.
Et pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que certains droits ne génèrent pas d'abonnement. Les gens payent pour quoi ? Pour de l'ultra premium. Voilà.
Donc la Ligue des Champions, le championnat domestique, c'est ça en fait l'ultra premium.
Des grands championnats étrangers, la Ligue des Champions, l'Europa League qui est un petit peu dans le même package, mais les gens sont prêts aussi à payer pour regarder de l'Europa League.
Okay.
Et après, le tour est vite fait. Certains grands tournois internationaux, vous connaissez, le tour est vite fait ensuite. Hein. Donc c'est un changement qui est manifeste depuis, si vous regardez... 2016 environ, 2017, c'est au gré des cycles des droits en fait. Mais si vous regardez le paysage des chaînes payantes dans les années fin 2000, début 2010, certaines chaînes concentraient une énormité de droits dans le multisport. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas forcément vecteur de réussite et de rentabilité.
Du coup, tu me donnes l'occasion de préciser ma première question. On va pouvoir rentrer dans le granulaire, comme j'aime à le dire. Du coup, c'est quoi la chaîne de foot parfaite sur une chaîne payante qu'a l'ultra premium ?
Le traitement du live, c'est la première chose. Il faut que le mec se sente bien en regardant, ou la jeune femme, ou la... D'ailleurs, c'est pas forcément jeune, puisqu'on s'aperçoit que notre public, il est pas forcément jeune, il est pas forcément que masculin, d'ailleurs. Tout ce qui est autour du match doit être, et ça on le voit dans les études, poussé pour le confort et passer un bon moment. Donc la fameuse obsession sur l'expertise, c'est vrai, c'est important. Voilà.
Qu'est-ce qui est attendu ? Parce que moi je veux savoir.
Passer un bon moment, c'est vraiment le retour.
Juste
qu'on
ça.
A. En fait, on fait des études marketing dans différentes villes, on rencontre des gens, on fait des tests avec des vitres sans teint. Où les gens commentent vos contenus, bien sûr, donnent leurs avis sur... vous prenez des services, des gens vous castent des abonnés RMC Sport, et ces abonnés, sans me voir, derrière une vitre sans teint, vont donner leur avis froidement sur ce que vous faites au quotidien. Donc ça, je vous conseille de le vivre un jour, c'est vachement intéressant, ça remet un peu en question, mais c'est une super école de l'humilité, tu vois. Ça fait pas de mal. Et on s'aperçoit que les retours sont absolument unanimes et qu'il y a une espèce de aujourd'hui de variation où si auparavant on va dire que le service j'ai mon expertise avant match, je regarde mon match expert et derrière j'ai de l'opinion forte, c'est quand même en train un petit peu de voler en éclats. On va dire que le message qui est passé, c'est je paye et j'ai envie de passer vraiment un bon moment dans l'expertise, mais avec de la fraîcheur, pourquoi pas se marrer aussi. C'est ce qui a évolué avec les saisons. Et pour tout ce qui est de l'archi opinion, d'envoyer du lourd, on ne veut plus de ça.
Donc quand tu dis opinion, envoyer du lourd, ça veut dire quoi précisément ?
De la punchline. De la punchline, de l'opinion. Mais là, je parle vraiment de chaîne payante. Ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a à la fois de la chaîne payante, mais à la fois des médias gratuits. Et ils nous disent, en gros, dans les retours, en ce qui concerne une chaîne payante, je paye pour voir les images, avoir l'expertise autour, une bonne ambiance, passer un bon moment, que mon équipe gagne ou perde, ou que le club français gagne ou perde, en l'occurrence sur les Coupes d'Europe. Et dans l'après-match, je veux des images et la même chose sur les autres équipes, puisque nous diffusons les résumés des autres matchs de Champions League ou de Ligue Europa. Tout ce qui est opinion forte, tranchée, de découper le club français s'il a perdu, on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose qui va les intéresser, au contraire, ça va les rebuter. Voilà. En gros, le message, c'est si j'ai envie de ça, je vais aller écouter l'after.
Du coup, est-ce que y a un adage qui est employé dans le commerce, le client a toujours raison. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça s'applique à ton métier?
Alors ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, quand on fait ce genre d'études, il y a un moment où le gars qui pose les questions aux gens dans cette salle, et toi, tu es derrière la vitre, il leur demande « Qu'est-ce que ce serait pour vous l'émission idéale? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir ?» Et là, on s'aperçoit qu'en fait, les gens répondent en fonction de ce qu'ils ont déjà vu. Ils ne sont pas créateurs d'émissions, en fait. Donc, leur poser cette question, on s'aperçoit que ça a ses limites. Évidemment que la personne, si elle paye, il faut la satisfaire, évidemment qu'on va l'écouter. Mais ce n'est pas à elle de créer les nouveaux concepts, etc. Donc, on en revient toujours au fait que c'est à celui qui a le produit de le développer pour qu'il soit meilleur. Donc, avoir raison, évidemment, s'il allume un produit et que personne ne le regarde, il a raison.
Et par rapport à ça, est-ce que tu regardes d'autres, ce qui se passe outre-Atlantique ou outre-Manche ou dans d'autres pays, Italie, Espagne? Bon, Italie, Espagne, pas trop, mais Angleterre, ouais.
Plus que ça, mais oui, Edouard, ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur le storytelling des émissions, c'est plus écrit, c'est plus anglo-saxon, les invités ont les questions avant, je m'en suis inspiré dans certains concepts.
Lesquels ?
Le vestiaire, okay. J+1 aussi, Footissime qu'on a lancé à RMC Sport, et pas seulement, je regarde aussi ce qui se fait un peu plus loin. Là, j'étais au Brésil en vacances et j'ai beaucoup regardé. Je m'en suis servi notamment sur la Ligue des Champions, sur de l'habillage. Où on s'aperçoit que les Brésiliens habillent beaucoup plus l'antenne. Il y a beaucoup plus de données à l'antenne. Ce qui fait que si tu n'es pas intéressé par la partie talk, parce que je peux t'assurer qu'ils font des talks de 6 heures après un Sao Paulo Fortaleza, tu vois, et ben, tu as de la data à l'antenne. Ce qui fait que si la partie talk ne t'intéresse pas, au moins, tu as consommé des chiffres, des déclarations, de la décla, des buts qui circulent. Et je trouve que c'est intelligent, en fait, puisque ça va, ça te donne le choix, en fait. Et moi, c'est un mot qui m'a toujours obsédé depuis que je bosse, c'est donner le choix au client.
T'as deux offres, en fait. T'as un seul produit, deux offres, et effectivement, tu perds personne. Donc c'est
toujours
c'est
le choix.
Manière de...
Les droits, l'audience, c'est pas le plus important. C'est de la satisfaction. Et la satisfaction... elle est via le choix. Est-ce que tu préfères regarder ton match, un multiplex, un seul des matchs? Qu'est-ce que tu préfères? La camiseau de Messi sur une autre canal additionnel? Peu importe l'audience, en fait. Moi, si tu payes, je dois te donner le choix le plus vaste possible. Et ensuite, il y aura un film du match le samedi, etc. etc., etc.
Et la satisfaction, elle est mesurable? Comment on la mesure?
Ouais, c'est la même chose. C'est des enquêtes internes, okay. En fait, avec des newsletters et les gens peuvent noter la chaîne. Et tu t'aperçois de l'évolution et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Les audiences, finalement, en télé payante, ok, c'est important, c'est un indicateur fort, mais selon que tu aies 15 millions d'abonnés ou 5 millions, l'audience ne sera pas la même.
Ouais. C'est la part de marché, là, dans les...
Exactement, la part de marché, mais pour une chaîne payante, c'est la satisfaction du client qui paye qui doit diriger, plus que l'audience pure, en fait. L'audience qui va dépendre de plein d'éléments, de la concurrence, de la tête du match, etc. La réalité, c'est ce qui est important pour une chaîne payante, c'est la satisfaction client. D'autant plus chez nous où le client a une chaîne, mais souvent va souscrire à une box SFR. Il y a un autre service avec. Donc il faut que la satisfaction globale soit la plus élevée possible.
Satisfaction, fidélisation.
Exactement.
Oui, donc en gros, si je schématise et que je simplifie ma question initiale, la chaîne idéale, c'est celle qui répond à 100%, qui satisfait à 100% celui qui la regarde. C'est utopique d'avoir cet objectif-là ?
Non, c'est jamais utopique, sinon on arrête de chercher, quoi. Il y a des questions qui se posent, nous on croit fortement au reportage. On a une émission qui s'appelle Transversale, qui a maintenant 5 ans, qui sort, on sort des documentaires entre 1h30 et 2h30. Enfin, voilà, on a fait une série documentaire l'année dernière. Cette année, on va revenir à un format un peu plus classique avec un doc de 2 heures sur Lionel Messi pour commencer.
Pourquoi lui ?
Tu le connais?
Alternative Football.
On va dire, il y a deux aspects. Mon premier aspect, c'est si on fait du doc, c'est pas de la masturbation intellectuelle pour dire j'ai du doc dans mon offre. C'est pour que ce soit vu. C'est un investissement. À l'heure où je te parle, il me semble qu'on est la dernière chaîne de télé payante à faire du reportage, produit par nous-mêmes, sur du très long format. Mmh. Alors qu'il y a une époque, c'était quand même la très grande mode. Mais aujourd'hui, on a des concurrents qui s'appellent Netflix, Amazon, qui produisent des docs de grande qualité. Et certaines chaînes ont pris la décision que, vu que Netflix ou Amazon sont distribués sur les télés, sont distribués dans certaines offres, dont celle des SFR notamment, il n'est peut-être pas la peine de fabriquer du doc nous-mêmes. Ce n'est pas la position qu'on a prise.
Ça m'évoque un truc, le fait que tu parles de... Tu as commencé en disant, le plus important, c'est le live. Et ça, je pense qu'il y a un consensus autour de ça. Si les gens regardent une chaîne de foot, c'est qu'ils veulent voir leur équipe jouer, gagner, etc. Là, tu nous parles du doc, du format. Ma lecture du truc, c'est que la case pré-match, post-match, elle tend à disparaître. Et que parce que les habitudes de consommation ont changé, via Netflix, via Amazon, tout ce qu'on connaît, je vais venir voir mon match. Et la prochaine fois que je veux parler de foot ou que je veux consommer du foot, je vais aller le chercher tout seul. C'est ta lecture aussi? Ou est-ce que toi, tu penses que la case émission proche du match, avec lesquels, je pense, dans notre génération, on a grandi. Est-ce que tu penses qu'elle a un avenir si on la réforme, si on la pense différemment?
C'est une bonne question. En tout cas, nous, le choix aujourd'hui, en regardant ce que les gens disent et en regardant ce qu'on peut faire, c'est de continuer. C'est-à-dire que, oui, sur certains matchs, sur certains droits, tu peux te poser la question de savoir si ça vaut la peine de prendre une demi-heure avant, etc. C'est vrai. Sur la Champions League, pour moi, la question ne se pose pas. Il y a une adrénaline particulière. Dès le matin, les gens en parlent, ils pensent. Donc, nous, sur les audiences, on le voit. Hier soir, par exemple, il y a du monde assez tôt.
Ouais.
Les gens viennent. Nous, on ouvre à 19h30. Les gens viennent soit pour 19h30. Il y a une vague ensuite à 20h et une autre vague à 20h30. Voilà. Il y a une vague à 20h54.
Ouais. Voilà.
Donc, oui, il y a du monde. La Ligue des Champions, c'est particulier. Concernant par exemple le football anglais, on entoure toute la journée avec une espèce de continuité. Là, c'est un cas différent où les matchs s'enchaînent. Donc, un petit peu à l'instar d'un Roland-Garros ou d'un Tour de France, c'est une histoire globale. Mais ici, les équipes écrivent ça différemment. Il y a quelques années, on aurait écrit ces avant-matchs et ces après-matchs, puisque tout s'enchaîne. Avant le premier match, on aurait commencé avant le premier. Ensuite, il se termine, on va le débriefer, puis on va parler du suivant. Ainsi de suite. Ouais, mais là, tu dépends totalement de la gueule du match, en fait. Et si c'est Wolverhampton-Leicester? Donc, en fait, c'est juste une évaluation de tes points forts et de tes points faibles. Si le match qui vient de se dérouler, c'est Chelsea-Liverpool, oui, on va le débriefer tranquillement et on va même pas parler du match suivant,
tu prends
qui
le
est
temps,
plus faible.
Ouais, tu prends le temps de bien débriefer, de rentrer dans
ça
dans
devient un magazine, ouais, en fait. Exact. C'est ça que je veux vous dire. Ça devient un véritable magazine où, au milieu, entre deux matchs, maintenant, les équipes vont faire un thème sur « Tiens, en fait, cette saison, où en sont les attaquants de PL, qui sont les gens les plus efficaces, qui sont les moins efficaces, qui sont les déceptions ?» Et ils font des thématiques entre les matchs quand ils estiment que les matchs ne sont pas assez puissants, ni pour être débriefés, ni pour être teasés. Quand il y a deux matchs très forts qui s'enchaînent, il n'y a pas de problème. Et on s'aperçoit que ça fonctionne. On a des éléments d'audience qui permettent de voir qu'on a moins de déperdition de cette manière-là, en faisant ça, qu'en restant coincé sur la vente et le débrief du match qui vient de se dérouler. Je peux vous assurer que quand il y a Leicester contre, je ne sais pas, Wolverhampton, les équipes ne vont pas le teaser 30 minutes avant. Elles vont parler du gros match du lendemain ou d'un thème du foot anglais du moment. Ça devient un magazine. On va passer le film du Paris Saint-Germain parce qu'on estime que entre deux matchs, c'est pas parce que c'est toi tu vas regarder Mathieu deux matchs de foot anglais s'enchaîner. Enfin toi tu regardes que Paris, mais ça c'est un autre sujet. Vous allez couper au montage. Mais,
coupable.
Mais c'est pas parce qu'il y a deux matchs anglais qui s'enchaînent que le mec entre les deux matchs veut absolument qu'on lui parle de foot anglais. Il vient regarder du foot. Donc ça doit être au milieu le meilleur du foot. Donc oui c'est une après-midi de foot anglais, mais on n'est pas totalement enfermé dans un précepte de foot anglais.
Par rapport à ça, je vais te poser une question. Est-ce que tu as eu toi, des idées des concepts que t'as appuyé, t'y croyais fort, et au final, t'as pas eu le retour ou t'as pas atteint le public?
Oui. On avait lancé une émission qui s'appelait donc Footissime en deux temps, mais la deuxième version qu'on avait lancée en 2019, c'était une émission, comment on va expliquer ça ? Une espèce de... C'était un peu comme le quotidien du foot.
Okay.
Tu vois, donc il y avait Nicolas Villas qui présentait, Sonia Carnero en co-présentation. Et là, il y avait beaucoup de petits modules fabriqués, des petits rubriquages ouais. bien montés, ou des chroniques faites avec un prompteur par des journalistes qui venaient raconter l'histoire du jour.
Okay.
Ils avaient fouillé de l'image en Espagne, etc. Ils te racontaient une petite chronique. Cette émission, elle était quasiment entièrement scriptée, écrite. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas trop. Le problème, c'est que quand tu marketes, l'émission elle est à 22h30, il y a beaucoup de concurrence à cette heure-là, même en interne. Hein, l'after, c'est monumental. Il y a d'autres concurrents à l'extérieur. En quotidienne, est-ce que c'était la bonne idée ? Pas sûr.
Puis
pas
surtout,
sûr.
Si je peux me permettre, je ne suis pas un expert, 22h30, l'info de la journée a été déjà traitée, non ? Elle a été un petit peu mâchée aussi avec les réseaux sociaux et tout ça, non ?
Bah, le but, c'était d'aller plus loin, c'est-à-dire
de pousser
que
plus.
Voilà, si Maradona avait fait des déclats fracassantes, nous, on va raconter toute la journée et d'où ça vient. Tu vois ? Donc, c'est une petite histoire de 3 minutes en chronique, etc. Le contenu, franchement, je suis persuadé que c'était vraiment très sympa et qu'il y avait de l'avenir. Est-ce que la case qu'on a mise était la plus adaptée, voilà, moi je prends la responsabilité de dire que je me suis sans doute trompé, quoi. Donc oui, c'est arrivé et ça arrivera encore. Mais après, c'est un petit peu comme un dirigeant dans un club de foot qui tente un pari sur un joueur, etc. Tu te gourres et puis tu apprends derrière ça. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que faire des émissions quotidiennes sur des chaînes payantes, c'est difficile quand même. C'est très difficile de fidéliser quelqu'un sur une quotidienne, sur une chaîne payante. C'est plus facile de le faire sur un média gratuit.
Et du coup, que ce soit Footissime ou d'autres, tu nous parlais d'équilibre entre ton ADN, qui est la création, hein, et le retour du public. Est-ce qu'il t'est arrivé au cours de ta carrière de créer des émissions sur une pulsion, en te disant, sans nécessairement regarder ce que le client veut, mais tu dis, ça, je sais que ça va marcher, et j'allonge ma question en amenant l'intégrant succès, c'est J+1, par exemple.
C'est quelque chose qui a mûri dans la tête de Canal. À l'époque, Cyril Linette, Paul El-Kaïm, Karim Nedjari, ils cherchaient un concept le lundi soir. Il y avait une émission qui s'appelait, je crois, Total Ligue 1, quelque chose comme ça, qui était une espèce de BD qui retraçait la journée. Ils n'en étaient pas satisfaits. Donc moi, je bossais à Beansport et ils m'ont demandé, en gros, Karim Nedjari, que je connais de longue date, m'a demandé si j'avais une idée de concept. Je lui ai présenté, c'était dans le 18 d'ailleurs, mon idée qui mûrissait depuis quelques temps. En fait, aujourd'hui, les émissions de télé sont vachement uniformes. Il y a une table, des gens qui parlent, souvent, enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux modèle. Et moi, ce que j'avais envie de faire depuis un moment, c'était de réfléchir autrement. C'était d'avoir une espèce de boîte à rubriques, chacune différente, et qu'elle soit la base, via du rubriquage, d'une émission. Donc c'est une façon de réfléchir qui pouvait paraître un petit peu brusque. Et quand je l'ai proposé, en fait j'ai proposé à Karim une liste de rubriques finalement. C'est pas tellement une émission que j'ai proposé. J'ai proposé une liste de rubriques. Sauf qu'à ce moment-là, ils avaient la Ligue 1, Total, quasiment Total, je crois. Non, pas Total. Il y avait Beansport qui avait une partie de droit. Et que ça correspondait exactement à l'écriture qu'ils souhaitaient, puisque à ce moment-là, c'était le grand succès du petit journal. Ouais. Et finalement, la façon que j'avais d'imaginer ce concept-là et leur façon de bosser depuis un moment concordait. Donc le lendemain, j'étais chez Cyril Linette et j'ai reçu une offre parce qu'ils ont estimé que c'est ce qu'il fallait maintenant et vite, parce que c'était tard. Ouais. Fallait le monter. C'était lourd et c'était tard. Donc cette idée-là, elle est née via en fait une accumulation de rubriques dans ma tête, d'inspiration ou d'imagination. D'inspiration espagnole, avec toute la politique d'El Día Después, qui est une émission, justement, c'est le jour d'après, en espagnol, qui traitait les matchs avec des caméras toutes placées à des endroits inhabituels. On envoie un caméraman, on lui dit tu vas sur le match, tu trouves des histoires, tu ramènes les rushs. C'est-à-dire, Bah, tu vas, tu mets ta cam, puis tu vas aller sur Messi, et puis s'il parle à quelqu'un, tu vas regarder la converse, et puis tu vas te tourner, tu vas chercher s'il n'y a pas un mec qui mange un churrasco dans la tribune avec son gamin, et le mec ramenait des heures de rush. Elles étaient dérushées, et à l'intérieur, ils utilisaient ces images pour soit faire un petit sujet justement sur, finalement, ils avaient vu qu'il y avait un sujet à faire sur Granero, parce qu'en fait, il avait trouvé plein d'histoires sur Granero, donc ils montaient un petit module sur Granero, et ils prenaient les petites images dans la tribune qu'il avait, pour compléter une espèce de medley tribune, parce qu'il y avait 9 mecs comme ça sur les 9 matchs. Donc en fait, c'est faire du rush, chercher des histoires, et après, tu dissèques pour avoir des modules. Et en fait, c'est ce qu'on a fait.
Et du coup, le rôle du consultant en soi, alors ? Est-ce que les émissions ont besoin d'un consultant ?
Ce qu'il faut savoir sur cette émission, c'est que déjà, le premier changement, il est archi simple. Quand j'ai rencontré Karim Nedjari, je lui ai dit, voilà, combien de personnes on va avoir pour regarder les images ? Il me dit, comment ça ? Je lui ai dit, voilà, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on a comme image ? Donne-moi toute la liste des images qui tombent dans les serveurs à Canal et qui sont produites sur les matchs. Je veux la liste des caméras et le nombre d'heures qui tombent. Là, il me redescend un peu indirectement tout ce qu'on a, les matchs, le signal fait pour Canal, le signal fait pour l'étranger, des caméras isolées. Je calcule qu'au total, on peut ramasser plein d'images. Et là, je tilte que qu'est-ce qu'on voit à la télé pour l'instant ? Des résumés avec des buts, des occasions, des cartons rouges. Je parle dans les émissions. Hein. Je dis, mais le reste du match, est-ce qu'il est refouillé derrière ? Est-ce que c'est refouillé ? Ce qu'on appelle ça dérusher. Et donc, je lui ai demandé d'avoir le maximum de personnes possibles pour faire ça. Finalement, j'ai eu 2 personnes, Salim Dib et Thomas Figueredo, que je salue. Et je leur ai dit, voilà, vous n'allez pas prendre un plaisir monstre, à mon avis, mais du samedi au lundi même, la première mission, on va tout dérusher, on va tout regarder. Donc, les 10 matchs, OK, les 10 matchs, mais à la vitesse réelle, sans les commentaires, pour entendre les conversations. Et en fait, en faisant ça, plus en matant toutes les caméras isolées, plus les 3 ou 4 tournages, on faisait des reportages aussi, sur des supporters, ouais. sur certains joueurs, sur les femmes de joueurs, voilà. Tout ça a été dérushé à la seconde. Au total, ça représentait sur un week-end environ 72 heures d'images à regarder. Donc, quand Karim m'a dit, bah écoute, je peux t'avoir ça, je lui ai dit, bah ok, bah, tu me mets sur mon poste, un poste pour dérusher moi-même. Ce qui, en tant que rédacteur-chef, ne se fait pas, quoi. Je dis, je m'en fous, il faut que toutes les images soient vues. Donc, moi, mon week-end aussi, en partie, c'était de mater ces images. À partir du moment où on scriptait tout ça sur une espèce de Word, on scriptait tout avec des time codes, 13h24, N'Golo Kanté, 2 points, et il dit ça à l'arbitre. Frappe de machin, magnifique passe Verratti, encore magnifique passe Lobé Verratti, etc. Tout ça scripté sur 3 saisons. Donc, en gros, le travail, c'était tout dérusher et avec ça, nourrir Julien Cazard sur des images. Parce qu'en fait, tu es en train de regarder ton match. Ton cerveau, il est coupé en 2. Il y a une partie où tu dois regarder la séquence tactique pour proposer des choses à Eric Carrière ou à Bibay, même si souvent, ils n'ont pas besoin de toi. La deuxième chose, c'est que tu dois réfléchir à dire, tiens, je peux peut-être monter un petit module sur Verratti, mais pour ça, il faut être observateur de son match. Donc, tu regardes le match des 22 acteurs. Ensuite, tu vas écouter pour avoir des petits moments de sous-titrage possibles. Quatrième chose, tu vas réfléchir aussi pour Cazard, pour dire, tiens, cette image-là, il peut la doubler ou il peut la détourner de sa réalité. Donc, en fait, ton cerveau, il est divisé en 4 quand tu regardes le match pour nourrir tout le monde. Et à la fin, tout le monde est nourri. Il a son petit montage de 45 minutes d'image. Cazard, il est arrivé, il avait ses 45 minutes d'image. Tiens, regarde-les et regarde ce que tu peux faire avec. Et là, le génie opère, quoi. Voilà. Donc, le principal boulot de cette émission, et ça, c'est ça qui est très factuel, finalement, c'est le dérush, en fait. Donc ça, c'est une culture qu'on a ramenée à RMC Sport, on continue, et qui fait que les films RMC Sport sur les matchs de Champions League sont vus par plusieurs centaines de milliers de gens à chaque fois. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des bouts qu'on a dérushés. Donc là, hier soir, il y avait des petits jusque assez tard, qui vont arriver tard et rentrer chez eux tard, pour dérusher tous les flux qu'on reçoit. Donc on rentre du quart régie, puisqu'il y a un quart à l'extérieur du stade, et on demande aux équipes de Luc Panier et Sabrina Mesli de nous envoyer le plus possible de flux, parmi lesquels on va trouver la pépite. L'année dernière, on avait trouvé des discussions de Riyad Mahrez en demi-finale, qui s'embrouillait avec plusieurs joueurs, avec Kyle Walker qui s'embrouillait avec des Parisiens, avec Backer notamment. On a vu ça parce que sur la cam Spider, c'est la cam que vous voyez sur un fil, là, vous voyez, au milieu de... On dirait qu'il y a un toit sur le parc à ce moment-là, mais il y a une cam filaire là, qui circule, qui fait des beaux plans par-dessus. Bah, cette cam, elle a un micro. Et quand elle s'est rapprochée, nous, il y avait du son dedans. Nous, on l'a dérushée intégralement, cette cam. Donc, ouais. Quand elle s'approche du joueur, le mec qui regarde les images arrête, écoute. Et là, il entend. Il va écouter 3, 4 fois, 5 fois. Il dit, ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans le montage du film, à l'arrivée, t'as plein de petites séquences comme ça. Et J+1 n'était qu'un medley, finalement, de tout ça, plus des reportages qui visaient à côté sur des supporters. Et ça, on a mis la caméra. D'abord, elle était vers vous, Edouard, les joueurs. Ça, on regardait ces images-là. Et nous, les reportages, au début de semaine, on calait des reportages. Boum ! La caméra, elle allait autre part. Pendant le match, la caméra elle allait sur la femme d'un joueur qui après lui débriefait le match à la maison. La femme de Yenin Bakoto lui débriefait les matchs. Ça, il faut avoir du réseau, parler avec les clubs, et ça leur a beaucoup plu de faire des sujets complètement différents, en fait, qui mettent en valeur la passion du foot. Parce que le point commun de tout ça, messieurs, c'est que pour moi, au-delà de l'expertise, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de bonne chaîne, en fait. Donc la partie émotion, elle était, je trouve, très sous-estimée. Je trouve que ça va mieux, notamment dans les docs qu'on voit partout tourner, sur tous les sports, hein, Jordan notamment, etc. La partie émotion, pour moi, elle est ultra importante.
Alternative Football. Alternative Football.
Est-ce que tu penses que toi, dans ta tête, t'as plein de projets, t'as plein de concepts, et je vois ce que tu dis, j'imagine, c'est que tu te fies quand même à tes auditeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce que malgré tout ça, tu te dis, mais il y a quand même un concept de dingue à aller chercher, et un peu à la Steve Jobs, hein, tu vois la belle comparaison, je vais leur proposer l'émission. L'émission, ils ne savent même pas qu'elle va exister, qu'ils vont kiffer, mais... Je vais leur proposer cette émission.
Ça a existé, ouais.
Est-ce que tu l'as... Ça a existé, mais est-ce que toi... Parce que c'est toi l'invité aujourd'hui. C'est ton émission. Loulou. Non, mais est-ce que tu as ça, tu as dans ta tête une émission... The Emission. The Show. The Show. Tu l'as ou pas?
Oui, alors... je pars plutôt du côté rubriquage, en fait. Je vais partir court, et si ça fonctionne, je vais rallonger. Aujourd'hui, okay. Je réfléchis plus comme ça, vu la tendance actuelle. Au lieu de me dire générique début, générique fin.
Ah ok, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Et après, petit à petit, tu bom, 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 tu rajoutes.
Il y a un concept où ça s'est passé comme ça, c'est le vestiaire qui est sur RMC Sport. C'est vrai qu'avoir un concept, ça peut partir d'une idée. Il y a plein de gens, il y a plein de mecs brillants qui ont inventé des concepts comme ça, ils se sont dit ça, boum. Moi, mon cerveau, il ne marche pas comme ça. Je suis pas... Ça vient pas comme ça, un concept, le matin. C'est fait de manière beaucoup plus pragmatique que les gens ne peuvent le penser. Donc, pour expliquer, concernant le vestiaire, par exemple, je bossais avec François Pesenti, qui m'a fait venir à RMC Sport. Je le salue. Il m'a dit, il faut qu'on ait un talk show en deuxième partie de soirée. Je lui ai répondu, il y a déjà l'after. Il y a déjà l'équipe du soir, gratuit. Et tu veux un talk show en deuxième partie de soirée? Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? Les moyens. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Pas de reportage. Mes trois consultants très forts. Dugarry, le bœuf petit, champion du monde. Je dis ok. Et en fait, moi, je prends une feuille et je dessine, en fait. Je dessine ce que j'ai, les points forts, les points faibles de chacun. Et je vais regarder quelle heure il est, que veulent les gens à cette heure-là. Essayer de trouver l'idée qui va avec. Mais en fait, ça part d'un truc très pragmatique. Donc en fait, j'ai mis sur une feuille petit, Dugarry, le bœuf, comme ça autour d'une table déjà, tu vois, ce qui est déjà un choix, hein, parce que sachez bien qu'on dit bien qu'une émission démarre avec une table et tout, mais moi, enfin, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que déjà, de base, il faut mettre une feuille vraiment blanche. Il faut se demander qu'est-ce que tu veux faire, et ensuite, tu sauras où ça se fait, tu vois. Donc je les ai mis comme ça, 1, 2, 3, et j'avais mis quelqu'un en présentation, donc il y avait 4 croix sur la feuille, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que aujourd'hui, quand une émission est faite, le présentateur, donc tu pars de cette croix-là, et si la parole, c'était un trait, eh ben, la parole va partir du prez vers l'un, donc la croix d'à côté, puis elle va revenir au présentateur, ça va aller vers l'autre, ça va lui revenir et il va partir vers le troisième. Pourtant, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les traits qui sont entre les consultants quand ils parlent entre eux, tu vois ? Donc je faisais le dessin, tac, du Gary vers le bœuf, vers petit et tout, et je lui dis comment je pourrais faire pour que ça passe moins par le prez en fait. Bah je l'ai viré en fait. J'ai enlevé le présentateur. À partir de là, j'ai parlé avec des gens qui s'y connaissent niveau cognitif et psychologie, parce que je me suis dit, quels sont les points forts de ces trois personnes ? Et comment je peux me différencier des autres émissions ? Tout le monde parle de l'actualité. Cavani, qui soi-disant sait pas faire un contrôle de but, hein, Mathieu, voilà, il n'y a pas de technique, mais il sait finir en une touche. Bon, bref, toujours la même chose et la même chose, la même chose, la même chose. De l'opinion, il y en a déjà, et elle est bien faite, et ça marche. Je dis, ok, mais moi je suis en chaîne payante, ça va pas marcher en fait. Donc, le point fort de ces trois personnes, c'est leur vécu. Juste avant, à Canal, Hervé Matou avait fait une émission basée sur les anecdotes, juste avant mon départ, et ça avait bien fonctionné. Et du coup, bah, la connexion s'est faite de me dire, là, j'ai trois personnes qui ont un vécu formidable. Moi, j'ai jamais été pressé par trois mecs au milieu de terrain. J'ai jamais été dans un vestiaire. J'ai jamais signé un contrat. J'ai jamais subi la pression d'un agent. Voilà, donc... En fait, je me disais, en fait, beaucoup d'émissions, mais les mecs, on les fait venir sur des noms, sur une crédibilité, mais on les fait jamais parler de ce qu'ils ont vécu vraiment, en fait. Donc, je dis, ok, on va faire ça. Une émission basée sur les anecdotes. Et là, j'ai vu quelqu'un qui est spécialiste du cognitif, qui m'a dit, et je lui ai posé la question fatale, je lui ai dit, comment, en mettant un invité en quatrième, je peux obtenir le maximum de save de lui ? Sachant que aujourd'hui, quand t'es un joueur de foot, tu calcules chacun de tes mots. Et que moi, le concept est basé sur de l'anecdote dans le vestiaire. Donc, c'est quand même, tu vois. Il m'a dit, il faut un rapport de confiance avec les autres autour. C'est le premier truc. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, ok, il faut enlever le présentateur, puisque le journaliste est vu, et toi, tu le sais, t'as fait des plateaux. Aussi sympa soit-il, tu te dis, toi, en tant que joueur qui vient, son objectif, c'est de me faire sortir quelque chose qui va, qui va faire un buzz. En enlevant, le mec s'est retrouvé seul avec trois anciens joueurs plutôt compatissants, qui ont de l'empathie pour lui.
Qui ont vécu les mêmes choses.
Et en plus, qui ont été champions du monde et qui vont lui poser des questions. J'ai maintenu une présentation, Sarah Ménaille. Cette année, le vestiaire revient, ce sera Flora Moussi. Une voix, mais qui n'est pas là visuellement.
À la donc, Pascal Clark.
Pascal Clark.
Ça, c'était une volonté. C'était, tu t'es inspiré. Est-ce que tu es allé chercher en dehors du foot parce que tu te rappelles que cette émission en aparté elle
non,
crée...
pas du tout. Ah, c'est, ouais. En fait, ouais, c'était une super émission d'ailleurs qui revient, si j'ai bien compris. Cette année, ouais. Mais moi, c'est à partir du moment où on m'a dit que la personne devait être physiquement absente, je me suis dit, oui, mais je peux pas donner la présentation à Franck Leboeuf et Manu Petit. C'est une galère sans nom, en fait.
C'est pas leur métier.
Non, voilà. C'est Franck Leboeuf a animé une émission d'ailleurs après, mais je dis là c'est compliqué, il y a quatre personnes, voilà. Et donc là le réflexe est venu de dire bon bah il faut quelqu'un pour animer mais pas présent physiquement, donc la voix est devenue une évidence. Et en effet je me suis dit, tiens, je vais revoir des émissions de Pascal Clark pour voir comment ça s'est passé. Mais le concept en fait est arrivé via la réflexion la plus pragmatique du monde, et il s'est avéré que en effet on a constaté quoi, que le joueur oubliait carrément les caméras, qu'il était, et ça c'est un indicateur fort, complètement affalé dans son canapé comme s'il était à la baraque, et que les champions du monde ont été très heureux de parler d'eux, de leur vécu, de choses qu'ils n'avaient jamais racontées jusqu'à avoir des larmes en plateau, parler d'essais du frère de Manu Petit, etc. Et que chaque invité voyant Manu Petit ou Christophe Dugarry, un, lui poser des questions, deux, se dévoiler dans sa vie privée, comment lui peut-il ne pas le faire ? Donc on a même dû parfois, sur l'émission qui a été enregistrée, couper des séquences où le mec allait trop loin et allait mettre en difficulté son club ou ses coéquipiers.
Ouais. D'accord. Ouais. Non, mais moi, j'ai en mémoire, notamment Franck Leboeuf qui se livre sur ce qu'il a vécu quand il a dû jouer. Enfin, tu vois, c'est effectivement des instants de télé qui sont
en 98.
Assez, ouais, en 98. Ça m'amène vers une transition naturelle et vers une double question. C'est vrai, j'aime bien en général la double question, la question à l'invité et à M. Cissé. Je vais commencer par M. Cissé. Tu es consultant. Notamment, oui. c'est l'une de tes nombreuses cordes à ton arc. Qu'attends-tu de ton rédac-chef, du directeur de la rédaction de quoi tu as besoin ? Et je pose tout de suite ma question à Laurent. Comment tu recrutes tes consultants ? Qu'est-ce que toi, tu vas chercher chez les gens ?
Non, je vais laisser passer. Je vais laisser parler Laurent.
Vous faites comme vous voulez.
Parce que moi, en fin de compte, je me mets au service d'eux. Donc, effectivement... Mais Loulou, il en parlera. L'année dernière, il est venu me chercher. Il m'a posé une question. Est-ce que tu veux venir? Enfin, il y a une possibilité. Il y a une place qui se libère. Je dis, Loulou, tu me connais très bien. Tu connais mon temps. Il me dit, ouais, mais je connais ton temps. Il n'y a pas de souci. Il y a de la place. Donc, tu vois, ça, c'est très intéressant. J'adore Jérôme Rotten, mais je ne suis pas Jérôme. Tu vois, j'aime bien de temps en temps faire une petite vanne. Il est comme ça. Et il est très bon, il est très drôle et tout ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Si tu me demandes de faire ça, j'y arriverai pas. Par contre, je peux me greffer, comme j'ai fait dans toutes mes équipes, trouver mon utilité et apporter ce que je sais faire. Et là, il n'y a pas de souci. Mais donc, j'ai besoin de savoir ce que le rédac attend. Et puis après, est-ce que je peux te le donner? Je peux te le donner. Est-ce que je peux pas? Parce que ça va trop loin dans ce que je peux donner ou pas. Je te le fais pas. Mais globalement, ouais, c'est en fonction de du rédac. Donc, qu'est-ce que, Lolo, tu as à dire? Et à me proposer?
Montre-nous ton jeu.
Aïe, aïe, aïe. T'as de la chance d'avoir joué à Rennes dans mon club, Edouard. Même si les plus jeunes s'en souviennent pas, je pense. Qu'est-ce que je veux dire? C'est arrivé d'un coup, cette histoire de consultant, en fait, en masse, autour des plateaux. Ouais. Je pense qu'on n'a peut-être pas super bien appréhendé tout ça. Aujourd'hui, c'est pas super organisé. Hein. Tu sais, recruter un consultant. Quand t'es un directeur sportif dans un club de foot et que tu veux un joueur, bah, t'as une cellule qui recherche. Moi, j'ai pas une cellule qui trouve les consultants. Alors, on a 3-4 personnages dans la rédaction ou à la direction qui surveillent, qui font de la veille.
C'est du bouche à oreille aussi, sinon.
Oui, ouais, du bouche à oreille. Il y a maintenant des agents, beaucoup d'agents qui contactent pour proposer des noms. Mais en fait, ils te proposent un nom. Mais sur quoi tu juges quelqu'un qui n'a jamais été consultant? Puisqu'on va parler de ça, il faut être un peu précis. Quelqu'un qui n'a jamais été consultant, il faut le juger et le lancer. Et après, il y a quelqu'un que tu as déjà vu sur d'autres antennes. Mais là, dans quel exercice? Des fois, on va me demander, est-ce que je peux commenter des matchs? Oui, mais moi, je ne t'ai vu que faire du plateau d'opinion. Donc, c'est beaucoup plus précis qu'on peut ne le croire et c'est beaucoup plus difficile puisque je n'ai pas de cellule de recrutement, si tu veux. Donc aujourd'hui, un consultant, moi je vais d'abord regarder globalement le concept où on veut le mettre. On a une ligne à RMC Sport qui est la nôtre, où c'est expertise et beaucoup de passion, le fond et la forme. Donc moi, tous les consultants, quand je leur parle de fond et de forme. L'un ne va pas sans l'autre. Il y en a qui sont plus forts sur le fond, il y en a qui sont plus forts sur la forme. La forme, c'est la façon d'exprimer tes idées, l'envie que tu y mets et la passion. Comme Eric Dimeco, il est excellent sur le fond, ses analyses sont bonnes, il va trouver les explications sur les actions, il est bon aussi sur la partie plateau d'analyse, et sur la forme, t'as quand même envie d'aller bouffer avec lui quand tu l'écoutes. Il est sympa, il est drôle, il va parfois critiquer certains joueurs, mais en y mettant les formes où c'est limite drôle.
Oui, il y a de la bienveillance quand même, voilà. Tu sens qu'il casse pas, quoi.
Il les traite comme si c'était ses petits frères ou ses amis. Voilà. Et ça, les gens le sentent. Ça s'appelle de la bienveillance, mais qui n'est pas exempt d'expertise. Ce genre de profil, il est difficile à trouver. Et pour le savoir, c'est compliqué. On va dire que moi, j'ai essayé depuis ces années où on fait des erreurs. Hein, on a fait des erreurs, on essaye, mais c'est difficile. Aujourd'hui, quand je regarde les choses avec un poil plus de recul, je me dis, il y a quand même des éléments factuels qu'on peut mettre sur ce genre de choix qui sont difficilement factuels. Si j'avais dû te recruter comme joueur de foot, je vais regarder tes performances, je vais les regarder. Un consultant qui a jamais fait, je me base sur quoi? Ses interviews d'après-match? Les interviews qu'il a données dans les médias? Mais dans ce cas-là, on n'aurait jamais pris Mathieu Bonnemer, alors. Je lui ai dit. Je t'aurais jamais pris. C'est au gré des rencontres, du bouche à oreille, où maintenant j'ai une question hyper simple. Si tu connais un ancien joueur qui regarde tout, qui aime le foot profondément, tu m'en parles. Parce que je sais déjà que c'est la première et c'est vraiment la chose qui va faire la différence. Oui, on peut faire regarder plus de matchs à certains joueurs qui avaient arrêté. C'est aussi les remettre dans le feuilleton, comme on dit. Voilà, ça arrive. Mais quand même, quand on voit des profils comme Mathieu, comme Jérôme, ils regardent tout. Parce que ce feuilleton, c'est comme ça. Et ça, déjà, vrai. Joueur, c'était comme ça.
Ouais, Jérôme, pour tout dire, Jérôme, il regardait les matchs de Ligue 2, il savait tout. Non, c'était un... Mathieu, c'est pareil aussi. C'est vrai qu'il consomme du foot. Il consommait du foot. Il consomme du foot encore. Et effectivement,
il regarde les U17, il regarde les U19.
Ouais,
il, il est au courant des pépites du championnat des Pays-Bas ou de Belgique quand on parle avec lui, ou de Norvège.
Ouais, ouais.
Il a un logiciel qui s'appelle Y-Scout, comme les scouts, et il regarde des matchs un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a le fond. Comment tu es capable d'analyser une situation immédiate? Si la balle, elle passe à côté, la frappe, est-ce que c'est parce que l'attaquant avait le pied d'appui mal fixé? Est-ce que c'est parce que le défenseur lui bouchait l'angle et l'a forcé à croiser? Est-ce que c'est la pelouse? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'a pas levé la tête? Ça, de le détecter dans l'immédiateté, tu sais que le mec peut commenter. Mais ça, c'est dur à trouver.
Ouais, c'est pas évident.
C'est les qualités, c'est... pour moi, c'est les qualités d'un scout. L'analyse immédiate.
Exactement.
Okay, et le plateau, c'est les qualités d'un directeur sportif. Quelqu'un qui est plus dans la mesure, dans le recul, qui va se souvenir qu'il y a 4 matchs, il s'était passé comme ça, il peut voir l'évolution d'un mec, et en plateau, il a eu 20 minutes pour réfléchir pendant le match, pour revenir et dire clic, clac, clac. Donc, directeur sportif, c'est plus la partie plateau, et je dis ça aux joueurs, scout, c'est l'analyse immédiate. Ça, c'est le fond. Et après, il y a la forme. Comment tu l'exprimes? Avec empathie, avec un peu de chaleur, t'es capable de mettre un peu d'humour? Voilà mes critères pour décider si je prends un mec. Mais pour le savoir, il faut bien que je le teste. Donc non, on ne fait pas des tests à blanc. Non, on ne fait pas des commentaires à blanc l'après-midi. C'est au contact du live et de l'imprévu que je vais le savoir. Mais pas tout de suite. Il y en a certains, au bout d'un match, je vais dire taper sur l'épaule, je vais faire écoute, on va en faire un deuxième, mais il est possible que ce soit compliqué, je ne suis pas sûr. Le mec va aussi souvent te le dire toi-même.
Le ressentir.
Je ne me suis pas senti bien, je n'ai pas l'impression que ce soit pour moi. On va laisser plutôt en plateau. Il y a d'autres cas, c'est l'inverse. Au bout de 10 minutes de plateau, tu tapes sur l'épaule de ton collègue, tu fais lui, c'est bon déjà. C'est bon. Il a le fond, la forme, et il a le bagage, il regarde tout, donc il connaît les joueurs. Il y a différents types de consultants. Il y a l'ancien joueur, il y a l'ancien directeur sportif, il y a aujourd'hui des pistes qui se creusent avec des analystes et des gens qui sortent du milieu du foot. Ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est d'avoir une écriture de la chaîne qui soit le plus proche possible de ce qui se fait dans les clubs de foot. J'ai eu une discussion avec la rédac la dernière fois. Le deuxième gardien d'Arsenal a été acheté 30 millions d'euros. Ça fait beaucoup rire. On se fout de la gueule de l'équipe de recrutement d'Arsenal en s'appuyant sur des stats, en disant « Oh, il n'a pas fait un clean sheet depuis un an, etc. » C'est vrai que sur le papier, ça paraît un peu bizarre. Maintenant, la nouvelle façon de bosser pour moi, c'est de dire « Ok, stop. » On se pose et on se dit que si ces gens-là qui font ça 24 sur 24 ont fait ce choix à ce prix-là, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et donc là, c'est bien d'avoir dans tes consultants des gens qui vont se servir de la data, qui vont connaître le marché, qui vont savoir le profil du gardien, les gars. Sortir des gens du foot, c'est intéressant parce qu'ils bossent dans le foot. Je trouve intéressant le fait d'être un peu droit dans nos baskets et de juger et d'évaluer le football, où on peut faire perdre des emplois à des gens, des entraîneurs qui ont une famille derrière, en ayant, nous, le maximum d'informations qui nous permettent de juger avec justice et un peu de droiture. On a une carte de presse, quand même. Donc, pour ça, il faut aussi développer notre manière de bosser, puisqu'aujourd'hui, des outils se présentent. Avec des, j'en parle avec des gars dans des clubs. Je parle beaucoup avec les dirigeants. Et toi, Edouard, tu le sais, il y a encore 10 ans, il y avait l'entraîneur dans un staff, le kiné, un préparateur physique, un entraîneur de gardien, et basta. Aujourd'hui, il y a des analyses sur la performance sportive, il y a des performances, la performance physique, des mecs qui vont upgrader ta musculation. Tu sais, dans le moins,
les gars, des coups de pied arrêtés,
voilà,
t'as tout.
Enfin, de la touche à Liverpool,
c'est morcelé,
ça travaille la touche, séquence par séquence. Si toi, avec tes équipes, tu es au courant de ça, tu es au courant de qui fait quoi, comment, c'est plus facile derrière d'amener un jugement si en plus tu as la data. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ramsdale, qui a été acheté 30 millions d'euros ou de livres, je ne sais plus, aujourd'hui est le titulaire Arsenal et il reste sur 3 clean sheets. Donc en fait, il ne faisait pas clean sheet en D2, il était nul. Mais maintenant, il fait 3 clean sheets en première division et il est super bon. Sauf que on avait regardé la statistique qualitative du garçon et pas que la statistique quantitative, clean sheet, Edouard, si t'as 4 défenseurs qui sont pourris, tu vas pas faire un clean sheet, même si t'es le meilleur gardien du monde.
Aller au-delà de la stat, c'est creusé en fin de compte. C'est ça.
Et on s'aperçoit que le gardien en fait était super bon et que le choix était bon.
Alternative football.
Si on essaye du coup, en forme de conclusion, de se dire, ok, ma chaîne de télé idéale dont je parlais en introduction, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut des droits. Parce que tu parlais de droits ultra premium, donc c'est ce qui intéresse les gens. Donc, faut se concentrer sur le live. Tu as besoin d'avoir un dispositif live qui est très fort parce que c'est là que tu vas concentrer la majorité de ton audience. Il faut proposer des contenus aux gens sur lesquels ils peuvent revenir et des contenus qui sont en ligne avec les nouvelles habitudes de consommation. Pardon. Donc, je fais du reportage. Mais il y a des lignes directrices dans tout ça. La passion. C'est beaucoup revenu aujourd'hui. Donc, il faut de la passion. Et il faut structurer ton approche en allant chercher différentes influences. Est-ce que c'est un bon résumé de l'idée qu'on a essayé de développer aujourd'hui ? J'ai sûrement oublié d'autres choses.
Il faut se rapprocher du monde du foot, démocratiser la façon dont le football travaille aujourd'hui. Amener de la passion via et l'attitude des consultants et des journalistes hyper positive, mais également dans la façon de mettre de la musique, de l'émotion, de sublimer les archives, de mettre de la nostalgie. C'est ultra important. Edouard qui me fait des gestes. Là. C'est terrible. Il est fou ce mec. Il faut le laisser enfermer ici, hein, les gars, après, hein, quand on a fini d'enregistrer.
Mais il reste dans le studio, en fait, pendant toute la semaine.
Sûr, en fait, il est là toute la semaine. Il est furieux, là. Et ça sent le bouquetin.
Non, mais, ça, c'est Matt.
Plus sérieusement, voilà, de la passion sous toutes les formes, dans le montage, dans la musicalité, dans l'attitude des journalistes et des consultants. Il faut que tu aies envie de boire un café avec les gens qui t'écoutent. C'est quand même super important. Ça, c'est mon avis. Des droits, être parfois pointu, parfois drôle, parfois léger. Il faut de l'humour. C'est dur à trouver, mais il faut de l'humour. Et j'ai plus besoin de la montrer, en fait. Ouais. Il y avait la place pour ça. Mais c'est très dur de trouver des gens qui maîtrisent et l'humour et le football. Parce que les gens qui regardent les émissions, tu les fais rire quand tu maîtrises ton sujet.
Ouais. Faut trouver le bon ton aussi.
C'est un mix qui est archi compliqué à trouver, qui va évoluer encore si tu me rappelles dans 3 ans.
Et bah écoute, on refera dans 3 ans un point sur la chaîne de télé Idéal.
Exactement. Mais ça me fait plaisir de t'avoir, Laurent. Et puis j'ai noté qu'il fallait se remettre en question. Et il y a une phrase qu'on m'a souvent dit, mais ce n'est que de la télé ou ce n'est que du foot. Effectivement, c'est que du foot, mais c'est pas parce que c'est que du foot qu'on peut pas le traiter correctement et sérieusement.
Et bien, ce sera un superbe mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs.
Merci
Laurent, merci infiniment. C'était un plaisir.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.